Sans attendre, il fit mander Mills de Noyer, qui avait la meilleure plume pour rédiger ce genre de traité. « Veuillez, messire, lui dit-il, nous coucher ceci sur Velin. Nous, Philippe, père et comte de Poitiers, régent des deux royaumes par la grâce de Dieu, et notre bien-aimé cousin, magnifique et puissant seigneur Eudes IV, père et duc de Bourgogne, nous jurons sur les saintes écritures de nous rendre bon service et loyale amitié. » C'est l'idée, messire de Noyer, qu'en gros je vous exprime là. « Et par cette amitié que nous nous jurons, avons en commun décidé que Madame Jeanne de Navarre... » Guillaume de Mello tira le duc par la manche et lui dit un mot à l'oreille, à quoi le duc comprit qu'il était en train de se laisser jouer. « Ah, mais mon cousin, s'écria-t-il, ma mère ne m'avait point autorisé à vous reconnaître pour régent. » On fut bientôt dans l'impasse. Philippe ne consentait à se dessaisir de l'enfant que si le duc avalisait le règlement de régence. Il offrit diverses garanties, mais l'autre s'obstinait, c'était sur les droits à la couronne qu'il exigeait un engagement formel. S'il n'y avait point ce Mello qui rusait, pensait le comte de Poitiers, Eudes aurait déjà capitulé. Il feignit la fatigue, étendit ses longues jambes, croisa les pieds l'un sur l'autre, se frotta le menton. Louis d'Evreux observait et se demandait comment son neveu pourrait se tirer d'affaire. « Je vois bientôt des lances s'agiter du côté de Dijon, » se disait cet homme sage. Il était sur le point d'intervenir pour conseiller « Allons, cédons sur les droits de la couronne !» lorsque Philippe demanda soudain au Bourguignon « Voyons, mon cousin, n'avez-vous pas désir de vous marier ?» L'autre ouvrit des yeux ronds, croyant d'abord, car il n'était pas vif, que Philippe envisageait de le fiancer à Jeanne de Navarre. « Puisque nous venons de nous jurer éternelle amitié, » reprit Philippe, comme s'il tenait pour acquise les quelques lignes restées inachevées, et que par là, mon cher cousin, vous me donnez grand appui, je voudrais vous faire à mon tour belle manière, et j'aurai plaisir à doubler notre lien d'affection par plus étroite parenté. Que ne prendriez-vous en mariage ma fille aînée, Jeanne ? » Eudes IV regarda Mello, puis Louis d'Evreux, puis Mills de Noyer qui attendait, le calame levé. « Mon cousin, quel âge a-t-elle » demanda-t-il. « Elle a 8 ans, mon cousin, » répondit Philippe, qui prit un temps, puis ajouta, « Elle peut avoir aussi la comté de Bourgogne, qui nous vient de sa mère. » Eudes releva la tête comme un cheval qui sent l'avoine. La réunion des deux Bourgognes, le duché et la comté, les ducs héréditaires ne cessaient d'en rêver depuis le temps de Robert Ier, petit-fils de Hugues Capet. Joindre la cour de Dole à celle de Dijon. Unir les territoires qui allaient d'Auxerre à Pontarlier et de Mâcon à Besançon, avoir une main en France et l'autre vers le Saint-Empire. Puisque la comté était palatine, ce mirage devenait-il soudain réalité? La route de l'Empire s'ouvrait et ses vieux prestiges carolingiens. Louis d'Evreux ne put s'empêcher d'admirer l'audace de son neveu. Dans un jeu qui semblait perdu, c'était grosse relance qu'il faisait là. Mais à y regarder de plus près, le raisonnement de Philippe se concevait sans peine. Il ne proposait finalement que les terres de Mahaut. On avait donné à celle-ci l'Artois aux dépens de Robert pour qu'elle lâchât la comté. On avait fait glisser à Philippe par la dot de sa femme la comté pour qu'il pût postuler à l'élection impériale. Maintenant, Philippe guignait la couronne de France ou tout au moins la régence pour 10 ans à courir. La comté avait donc moins de raisons de l'intéresser, à condition qu'elle n'allât qu'à un vassal. Ce qui était le cas. Pourrais-je voir madame votre fille ? Demanda Eudes aussitôt sans plus songer d'en référer à sa mère. Vous l'avez vue tout à l'heure, mon cousin, au repas.
Certes, mais je l'avais mal regardée, je veux dire, je ne l'avais point considérée de cet œil.
On envoya chercher la fille aînée du comte de Poitiers qui était occupée à jouer à chat perché avec les autres enfants.
Que me veut-on ? « Qu'on me laisse à rire, » dit la petite fille, qui poursuivait le dauphinier du côté des écuries.
« Monseigneur, votre père vous requiert, » lui dit-on. Elle prit le temps d'attraper le petit guigue, de lui crier « Chat !» en le frappant dans le dos, et puis suivit, boudeuse, mécontente, le chambellan qui la prit par la main. Encore tout essoufflée, les joues moites, les cheveux sur le visage et sa robe brochée couverte de poussière, elle se présenta ainsi à son cousin Eudes, qui avait 14 ans de plus qu'elle. Une petite fille ni laide ni jolie, encore maigriotte, et qui ne se doutait nullement que son destin se confondait en cet instant avec celui de la France. Il est des enfants qui donnent tôt à deviner la mine qu'ils auront adulte. Sur celle-ci, on ne distinguait rien. On ne voyait que la comté de Bourgogne en auréole.